Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Tout passe, Dieu seul demeure. Une inscription qui a posé sur le fronton de la chapelle des Carmélites à Muret, au 67 chemin de la Combe, accueille et invite tous ceux et celles qui, pour une heure, un jour ou toute une vie, en franchissent le seuil. Des mots qui nous plongeaient tout aussitôt dans le mystère de la vie carmélite lorsqu'il y a quelques semaines, nous rencontrions derrière la grille de fer forgé, dans le parloir des familles, visage heureux, voix douce, parole libre, quatre sœurs carmélites, porte-parole d'une communauté qui s'inscrit dans une longue histoire. Une histoire qui commençait dans la région toulousaine il y a un peu plus de 400 ans, traversant les siècles et les violences du monde, ne s'est jamais interrompue ou presque. Là encore, si ce n'est un mystère, une grâce du Carmel.
Jean-Pierre, on habite à Muret, oui. Et au Keug, on voulait voir le Carmel. Et puis, j'ai la belle-fille qui chante, donc je suis venu comme ça. J'avais entendu parler du Carmel, mais c'est la première fois que l'on vient. C'est une occasion.
Et alors, ce que vous voyez, qu'est-ce que ça vous interroge, ça vous questionne? Qu'est-ce que vous découvrez aujourd'hui?
J'ai vu les sœurs là derrière les grilles, là, et c'est une vie, ça doit être dur, ça me questionne, oui. Voilà. On va les entendre chanter, j'espère.
Un dimanche, à la sortie de la messe, où famille, amis, paroissiens du secteur de Muret et d'ailleurs, sont venus partager la prière des sœurs.
Eric, ça me surprend surtout dans la mesure où ça demande quand même une certaine foi, un certain effort, parce que c'est quand même toujours fermé sur l'extérieur. On ne les voit sortir que quand c'est les élections. Et le reste du temps, c'est un témoignage de ce qui est leur passion pour Dieu.
Mais à votre avis, c'est un enfermement ou c'est une liberté ?
Pour elle, je pense que c'est une liberté. De mon point de vue à moi, je le verrais plus comme un enfermement. Parce que dans la mesure où vous n'avez peu de vue sur l'extérieur, ce qui me choque le plus, c'est pendant le déroulé de la messe, qu'elle soit toujours de l'autre côté de la grille et qu'elle ne puisse pas être participant dans la partie plus ouverte. Quoi. Un enfermement, j'aurais tendance à dire.
Béatrice, je donne de mon temps pour elle parce que j'ai beaucoup de respect et d'admiration de tout ce qu'elles peuvent faire, c'est-à-dire déjà prier pour le monde entier, pour la paix et ensuite pour tout le travail qu'elles font aussi à l'intérieur et qu'on ne voit pas. Elles émanent beaucoup de lumière en elles. D'autre part, quand on va dans les cérémonies, dans les messes, elles chantent magnifiquement bien. Et d'autre part, elles se symbolent qu'elles ont d'amour et de paix. C'est ce qui m'attire en fait à elle.
C'est une vie qui vous interroge ?
Ben, en fait, particulièrement non, parce que quand je les vois, je les côtoie de temps en temps, même si elles sont derrière leur grille, je trouve qu'elles ont tellement de lumière en elles, de bonheur, que je pense que ce choix de vie qu'elles ont fait, c'est vraiment un choix d'amour et de beauté. Donc pour moi, j'ai beaucoup de respect, je ne me pose pas de questions du tout.
Quelques jours plus tôt, dans le parloir des familles, je rencontrais quatre des sœurs de la communauté. Sœur Véronique du Cœur de Jésus, sœur Marie-Claude du Christ, sœur Marie-Pierre de Jésus-Christ et sœur Marie-Lucie de l'Eucharistie. Nous sommes séparés par une grille ouvragée en fer forgé, à travers laquelle nous nous faisons passer le micro. Une clôture qui interroge, interpelle certains, nous l'avons entendu, et pour elle-même, quel est le sens de cette clôture ?
C'est un signe fort de notre séparation du monde, entre guillemets, disons des bruits du monde. C'est une matérialisation, si on peut dire, de notre retrait au désert, qui nous permet d'être en même temps proche géographiquement, mais intérieurement, nous sommes quand même dans un désert, dans un lieu de grand silence pour écouter Dieu et lui présenter les besoins du monde qu'il connaît, mais qu'on veut lui présenter avec plus d'amour.
Un désert habité. Quand on pense au désert, on pense souvent à des espaces vides où ne pousse pas grand-chose. Vous me parlez de désert. Qu'est-ce que vous mettez sous ce terme de désert ?
Un lieu de solitude qui favorise, qui facilite la rencontre avec Dieu. Le désert, c'est aussi un lieu de combat. On s'armer de courage, s'armer de la parole de Dieu pour être fidèle, pour tenir aussi dans la durée, dans l'intercession, rester fidèle à l'appel du Seigneur. C'est entrer dans le combat de Jésus au désert pour l'humanité aujourd'hui.
Je suis arrivée un petit peu en avance et avant de venir frapper à la porte, je suis rentrée dans la chapelle et je me disais que cette chapelle, c'était certainement le lieu pivot entre votre monde à vous, de l'autre côté de la grille. Et d'ailleurs, dans la chapelle, il y a aussi une grille. Donc, de votre monde clos, mais qui est complètement ouvert sur le monde et le monde qui est à l'extérieur. La chapelle, c'est ce qui unit ces deux mondes qui se retrouvent alors d'une manière autre que celle qu'on a l'habitude de nous dans ce monde de pratiquer, mais deux mondes qui se retrouvent quand même.
Oui, parce que bon, c'est le lieu où à la fois la communauté se rassemble pour prier et voilà, où elle vit la prière de l'Église. Donc c'est vraiment au nom de l'Église tout entière, où on porte les intentions du monde entier, mais c'est aussi le lieu où les fidèles viennent. Donc le dimanche, on ne fait qu'une assemblée, même s'il y a la séparation matérielle. Et même en semaine, c'est très, très fréquent que des personnes viennent dans la chapelle silencieuse pour se recueillir.
Oui, je dirais que quelque chose, depuis les travaux, la rénovation de la chapelle, je dirais que le Christ qui est dans l'angle, les bras ouverts, qui est à la fois tourné vers le cœur démonial et vers l'assemblée, nous prend tous, fait l'unité. C'est très, très fort, je crois.
Oui, oui, puis aussi ce qui est marqué au-dessus de la porte d'entrée de la chapelle, tout passe, Dieu seul demeure. Je pense qu'en fait, autant les personnes de l'extérieur que nous, carmélites, quand on vient à la chapelle, on laisse tout le superflu et on vient vraiment pour l'essentiel. Donc c'est, voilà, on se rassemble dans ce qui fait le cœur.
Derrière cette clôture et les murs du bâtiment réside une grande part du mystère. Religieuses contemplatives, les carmélites consacrent l'essentiel de leur vie à la prière. Et les contacts avec l'extérieur sont très rares, ce qui donne l'assertainement du corps à cet inconnu et à ce mystère.
Mystérieuse simplement parce qu'on est caché, mais on a une vie toute simple, toute ordinaire. Une vie, bien sûr, rythmée par les temps de prière, c'est l'essentiel, c'est pour ça que nous sommes ici. Et sinon, notre vie dans son ensemble est tout à fait simple, rythmée, donc, je disais, par les prières et puis par des activités toutes simples, la cuisine, le ménage, la couture, la reliure, le jardin. Voilà. Ce qui nous permet justement de pouvoir donner toute la place à la relation à Dieu, hein, de pouvoir être suffisamment libre pour faire toutes choses en présence du Seigneur, enfin essayer d'y tendre. Voilà, de favoriser tout ce qui peut permettre un climat de recueillement, de silence, justement pour être à l'écoute du Seigneur et essayer de descendre dans la profondeur de notre cœur pour le rencontrer, mieux le connaître et mieux nous connaître.
dans cette vie de prière, d'études, de travail, c'est le rythme de vie aussi qu'on retrouve peut-être dans d'autres ordres, hein, certainement, dans les cisterciennes, les bénédictines. Est-ce qu'il y a une spécificité à la vie carmélite? Il y a l'oraison.
L'oraison, nous avons deux temps privilégiés. L'oraison en commun, au chœur, à la chapelle, le matin, pour commencer la journée, et en fin d'après-midi, à 4h30, avant les vêpres. Ça ne veut pas dire que le reste du temps, on ne prie pas, mais justement, c'est des temps forts qui se préparent et se prolongent dans le reste de la journée. Et la petite Thérèse disait que les signes de Dieu, elle les voyait plus dans le courant de la journée qu'à l'oraison. Et pourtant, c'était à l'oraison que son attention était en éveil, on peut dire, à la volonté de Dieu. Et pourtant, ça se répercute, c'est dans la journée que ça retentit, ce qu'on a vécu à l'oraison.
Alors, est-ce que j'ai appris à faire oraison? C'est de l'ordre d'une amitié, donc une amitié, je ne sais pas si ça s'apprend beaucoup. Alors, bien sûr, il y a des méthodes pour faciliter le recueillement, mais je ne sais pas si ça s'apprend vraiment. En fait, c'est plus de l'ordre d'une relation. Donc, il y a le désir d'être fidèle à ce rendez-vous avec Jésus. Et les temps d'oraison eux-mêmes peuvent être difficiles parce qu'il y a des distractions, parce que on pense au travail qu'on a à faire, parce que... Ah oui, on a aussi des distractions, les carmélites, même peut-être plus que les autres, parce que comme c'est le désert et que c'est tous les jours et deux fois par jour. Mais au-delà de ça, en fait, dans le long terme, on sent que cette relation s'approfondit. On expérimente de plus en plus combien on est connu et aimé par Dieu. Et en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que même ces simples moments où on essaie d'écouter la parole. C'est de l'ordre d'une amitié.
Je soulignerais que Sainte Thérèse voulait que la vie de prière ait un but apostolique. Ça qui est mystérieux. Parce qu'elle a réformé le Carmel dans un but apostolique. Elle s'est dit, en voyant les malheurs de l'Église au XVIe siècle, le schisme, la réforme, les protestants, elle s'est dit, il faut que j'aide le Seigneur. C'était son idée, d'aider le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis femme. Alors, surtout à l'époque, en Espagne, elle se sentait un peu liée. Alors, elle s'est dit, je vais faire le petit peu qui dépend de moi. Je vais observer de mon mieux mes vœux. Et ensuite, prier pour l'Église et prier aussi parce qu'au XVIe siècle, c'était les conquistadors en Espagne. Et tout ce monde qu'on découvrait, tous ces Indiens qui ne connaissaient pas Dieu, toutes ces âmes qui se perdaient, comme elle disait, ça a été un ressort missionnaire. C'est un aspect du Carmel qu'il faut souligner. Ce n'est pas pour rien que la petite Thérèse est patronne des missions. Mais on ne fait rien de plus. Hein. Mais c'est cette vie de prière qui... C'est la vie qui circule dans le corps de l'Église.
Aussi, une intention de prière pour les prêtres, hein, puisque l'important, c'était aussi... Voilà, elle se sentait impuissante à pouvoir aller évangéliser. Donc, elle s'est concentrée dans la prière aussi pour les prêtres, eux qui ont la mission d'annoncer le Christ. Voilà, donc de pouvoir être les soutiens invisibles, cachés des prêtres et de tous ceux qui ont une mission d'évangélisation dans le monde.
En retrait et pourtant au cœur de la vie de l'Église, du diocèse et de la vie paroissiale, Père Jean Coltreau, curé de la paroisse de Muret.
Alors, le fait d'avoir une communauté religieuse, surtout de ce style-là, dans la paroisse, c'est quand même une richesse. Une richesse, mais qu'on ne peut comprendre que dans la vie spirituelle, parce qu'on ne les voit pas, mais elles rayonnent beaucoup. Et c'est vrai que tous les dimanches, ici, il y a du monde à la messe qui vient du Muret ou des environs. Ça les attire par leur présence, simplement leur présence, même si elle est silencieuse. Et donc pour nous, en tout cas, c'est cette présence spirituelle. On sait qu'on a un lieu où on prie pour nous, ou quelqu'un aussi, un lieu, c'est carmélite, qui prie aussi pour le monde, qui prie pour les vocations, qui prie là où on n'a pas trop le temps ou pas trop envie, en fait. Elle comble les trous de prière de notre humanité, de notre quotidien. Et pour nous, c'est précieux de les avoir, c'est très précieux. Oui. Et de temps en temps, elles font une sorte de journée portes ouvertes, comme ça, il y a du monde qui vient, mais elles restent toujours derrière. Hein. On peut les voir derrière les grilles, on peut parler avec elles, mais sauf la sœur Tourière qui est là pour accueillir, qui a la vocation spéciale d'accueillir, elle, la petite sœur qu'on a vue là. Et ça, c'est sa vocation un peu dans la communauté. Il y a qu'elle qui peut le faire. Voilà.
Sœur Marie de Jésus, je suis venue lundi, j'ai rencontré vos sœurs derrière la grille. Et vous, je vous rencontre ici, nous sommes face à face, il n'y a pas de grille entre nous, et nous sommes juste sur le parvis de l'église. Vous êtes carmélite, vous portez l'habit, mais vous n'êtes pas derrière la grille.
Oui, parce qu'au Carmel, il existe deux vocations, dont la plus connue, c'est celle des sœurs qui sont derrière la grille, qui sont vraiment contemplatives. Et après, il y a une autre vocation qui est au service de la prière des sœurs, qui est être sœur de l'accueil et faire le lien entre les sœurs de l'intérieur et les gens qui viennent au Carmel. J'accueille les familles des sœurs, les gens qui viennent au monastère poser des intentions ou demander un travail ou travailler chez les sœurs, que ce soit le kiné, le médecin, voilà. Et après, ben, je vais amener les sœurs aux rendez-vous médicaux. Je vais aller faire des courses s'il y a besoin. Voilà, je fais le lien entre les sœurs de l'intérieur et l'extérieur. Et après, ma mission première, c'est quand même de prier. Donc je prie à la chapelle avec les gens qui viennent à la messe, les gens qui viennent prendre un temps de silence. Voilà. Donc, ma mission première, c'est la prière. Et ma seconde mission, le service de la communauté à l'accueil.
Une mission que vous avez comprise au fur et à mesure de votre présence ici, parce que vous êtes novice encore, et dès le départ, est-ce que vous êtes rentrée avec l'idée de cette mission, ou bien est-ce que vous l'avez comprise peu à peu ?
Non, au départ, quand je suis rentrée, je ne savais pas que ça existait. Et c'est après, peu à peu, pendant ma formation, que j'ai senti que c'était bien le Carmel, ma vocation, mais j'étais un peu à l'étroit à l'intérieur. J'avais besoin de ce côté de service, cette vie plus humble quelque part. Et en réfléchissant au cours de mon noviciat, j'ai lu le texte qui est spécifique aux sœurs de l'accueil et ça m'a vraiment rejoint. Et donc après, j'ai demandé à faire un essai et comme je me sentais très bien dans cette vocation-là, ben, je m'engage dans cette voie.
Donc il vous arrive de circuler dans Muret ?
Oui.
Et comment vous êtes perçue ?
Alors quand je circule, souvent il y a de l'étonnement. Des fois, il y a des gens qui viennent me voir, me poser des questions, me demander de prier pour eux. En général, les gens sont très bienveillants. Ça ne m'est jamais arrivé de me faire insulter, ou vraiment jamais. Voilà, je vais au supermarché, je vais chez le bijoutier faire réparer les montres, à la pharmacie. Voilà, les gens sont très étonnés en général.
Et le fait que vous portiez l'habit, justement, ça les amène peut-être à s'adresser à vous de façon plus simple, plus naturelle ?
Oui. Je remarque en étant sœur de l'accueil que souvent quand on rencontre des gens, très vite ce qui va venir quand ils rencontrent une religieuse, c'est vraiment leurs soucis les plus profonds, leurs préoccupations. Souvent c'est des questions existentielles qui viennent et ou des choses difficiles qui confient parce que ben voilà, c'est pas moi qui vois, c'est la religieuse qui prie, qui a un lien avec le Seigneur. Et aussi à travers moi, la communauté qui va les porter dans la prière. Et c'est vrai que souvent, c'est émouvant. Oui.
Aux côtés de Sœur Marie de Jésus, chaque jour depuis 17 ans, Christian et son épouse assurent l'accueil.
Voilà, toujours dans la joie d'être là. Moi, je m'occupe de tout ce qui est voilà, tout est entretien, enfin, tout ce que je peux faire. Première fois qu'on est arrivé ici, puisqu'on avait proposé nos services aux sœurs, on ne pensait pas d'ailleurs que les carmélites accueillaient éventuellement un couple pour les aider. Et en fait, moi je redoutais beaucoup la campagne, parce que j'étais une personne de la ville. Et alors quand je suis arrivé ici, oui, au bout de l'allée du Carmel, la première réaction que j'ai eue, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, mais j'ai l'impression d'avoir toujours vécu ici. C'est le sentiment que j'ai eu. toujours comme si j'avais toujours habité ici. C'est un phénomène extraordinaire, un bien-être immédiat. Comme si le Seigneur me disait, hop, ça y est, c'est là que je te veux, je ne veux pas ailleurs. Et alors j'étais conforté un petit peu dans ce sentiment premier, quelques années après, où d'autres personnes m'ont dit, j'ai eu le même sentiment. Quand je suis arrivé ici, j'ai l'impression d'avoir toujours habité ici, notamment une sœur qui est ici maintenant. Alors j'ai dit, voilà, le Seigneur à un moment donné dit, tac, c'est là que je te veux, je ne veux pas que tu bouges. Et puis, il ne m'a pas fait bouger.
Et donc vous êtes là tous les jours?
On est là tous les jours, ouais. Oui. On est résident, bah oui, pour être vraiment à l'accueil de toutes les personnes qui viennent ici, de passage, ou le téléphone, vous savez, c'est bon, il y a quand même un petit peu d'activité. Et puis voilà, on est au service de nos sœurs, en priorité notre Seigneur et puis de nos sœurs, voilà.
Des sœurs, je suis venue les rencontrer lundi. Alors elles sont derrière la grille. Pour le monde, elles sont peut-être enfermées, mais j'ai eu l'impression qu'elles avaient une liberté immense.
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des fois, on a eu des réactions de personnes en disant « Mais ah, la grille, mais c'est terrible, elles sont enfermées, elles sont derrière la grille. » Et je sais qu'une fois, une sœur avait dit « Mais si vous nous voyez derrière la grille, ben nous aussi, on vous voit derrière la grille. » Voilà. Et en fait, qui est en liberté et qui est prisonnier? Voilà, question à chacun. Voilà, savoir. Bien sûr, il y a la rigueur de la clôture, mais en même temps... Dans ce monde turbulent, on se dit, à un moment donné, qui est libre et qui est prisonnier.
Et vous-même, vous avez cheminé avec elle?
Alors, cheminer avec les Carmélites?
Oui.
Oui, je pense que... Enfin, oui, elles m'ont fait cheminer, oui, tout à fait. Avec mon épouse, c'est pareil, on a cheminé, dans le sens où leurs contacts, si vous voulez, nous ont permis un petit peu de mieux aimer l'Église, de mieux aimer notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça, je crois, qui est important, en fait. Et malgré le fait qu'elles sont à l'intérieur, si vous voulez, l'image que nous avons, je leur dis toujours, l'image que nous avons de vous, à l'intérieur, quand on vous voit dans la grille, eh bien, c'est une image positive. Parce que des fois, les sœurs disent, « Oh, mais vous savez, nous, les fonces, voilà, on a vie communautaire, donc on n'est pas toujours agréable, on est peut-être un peu trop réactive vis-à-vis des autres, peut-être qu'on ne montre pas un visage très agréable. » Et je leur dis, vous savez, tranquillisez-vous, parce qu'en fait, toutes les personnes qui passent ici, quand on vous voit, sourire, on voit la paix en vous, voilà. Après, on sait bien que derrière, bon, bien entendu, il y a la vie communautaire, hein, mais le premier contact, le premier regard est un regard apaisant, voilà. Pour toutes les personnes qui disent, voilà, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien d'être là. Peut-être parce que les gens, beaucoup arrivent avec des souffrances, avec des valises très lourdes. Et ils disent, voilà, là, on sent qu'il y a un chemin qui est un chemin pur et de vérité.
Elles sont 13 aujourd'hui avec une novice et une professe temporaire. La plus jeune a 24 ans et la plus âgée, 83. Diversité de générations et de visages pour une vie fraternelle et familiale.
C'est ce que Sainte Thérèse voulait, une vie de famille. C'est pour ça qu'elle désirait des petites communautés, pas trop nombreuses, pour qu'on puisse se connaître et avoir des relations directes entre nous.
Il faut dire aussi que la vie de famille se manifeste entre nous. Vous voyez, nous avons 2 récréations par jour, bon, ce terme de récréation, où nous nous rencontrons. En dehors des récréations habituelles, quotidiennes, c'est comme dans une famille, quand il y a un anniversaire ou la fête de l'une ou de l'autre, on le marque à récréation. On partage, on fait un petit cadeau, on fait un petit chant. Il y en a une qui arrive avec la flûte, parce que nous avons des musiciennes. Son mari, Lucie, joue très bien dans la flûte. Et il y a 2 autres sœurs, une avec la guitare, l'autre avec un piano. Enfin, la vie familiale se manifeste. Et puis, une fois par an, nous faisons la fête de notre mère prieure. Alors ça, c'est vraiment la fête familiale par excellence. Une manière de lui dire merci pour tout ce qu'elle fait toute l'année. Et c'est vraiment la famille qui se retrouve.
Derrière la clôture, nous les imaginions austères, sévères. Au fil de la rencontre, nous découvrons leur joie. Les Carmélites, des femmes comblées par le Seigneur.
Peut-être on peut dire qu'on est à notre place, dans notre vocation, là où le Seigneur nous attend et nous donne la possibilité de coopérer avec lui. Donc c'est un mystère de vie. Et donc ça ne peut que nous rendre heureuses.
Oui, puis c'est pas simplement pour deux jours. C'est vraiment de participer au mystère du Christ ressuscité. Donc on est comblé parce qu'en fait, ça rejoint vraiment le désir le plus profond du cœur humain, qui n'est pas fait simplement pour un instant, mais qui est vraiment fait pour la vie éternelle. Et ça, c'est notre espérance, mais c'est pas un rêve, c'est une réalité. C'est vraiment quelque chose qui nous comble parce que Dieu nous a créés pour ça. Et je pense que chacune pourrait le dire, même si après au quotidien, comme tout le monde, elle est haut et elle est bas.
En entrant au Carmel, elles ont fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance pour suivre Jésus, l'homme de leur vie. Installées dans la région toulousaine depuis 1616, les carmélites d'aujourd'hui, qui ne sont pas restées pour autant bloquées au XVIIe siècle, restent néanmoins fidèles à l'esprit de leur fondatrice, Mère Isabelle des Anges, mais également à celui de la petite Thérèse, aimer, c'est tout donner.